Kirwa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 4 janvier 2022. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, au Soudan, de nouvelles manifestations ont été réprimées à coups de gaz lacrymogène devant le palais présidentiel de Khartoum. Des arrestations ont été opérées au Kenya au lendemain d'une attaque meurtrière dans l'est du pays. En Afrique du Sud, l'incendie au Parlement a été maîtrisé. Un suspect est en détention. Covid-19, record mondial de plus d'un million de cas rapportés lundi ici aux États-Unis. À suivre également dans cette session d'information le score avec notre spéciale Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Mais tout d'abord, le journal. Les forces de sécurité soudanaises ont tiré mardi des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui se sont rassemblés devant le palais présidentiel à Khartoum. Les détails avec Jenny Kapoubou-Villa.
Les forces de sécurité se sont déployées en masse pour disperser les milliers de militants. Les rues menant au QG de l'armée dans le centre de la capitale ont été bouclées au milieu d'un imposant dispositif sécuritaire. Malgré la répression, l'Association des professionnels soudanais avait appelé à de nouvelles manifestations ce mardi. Réclamant un pouvoir civil, les militants ont appelé à descendre dans la rue et à se diriger vers le palais présidentiel jusqu'à obtenir la victoire. Cette dernière manifestation intervient deux jours après la démission dimanche du premier ministre civil Abdallah Hamdok, laissant les militaires seuls aux commandes. Depuis le coup d'état du 25 octobre par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, 57 manifestants ont été tués, selon un comité de médecins pro-démocratie. De nombreux journalistes ont été battus ou arrêtés, tandis qu'Internet et le téléphone fonctionnent selon la volonté du gouvernement.
Au Kenya, 8 personnes ont été arrêtées au lendemain d'une attaque où 6 personnes ont été tuées et des maisons incendiées dans le comté de Lamu, proche de la Somalie. Le point avec Rosine Monezero.
L'enquête avance bien et jusqu'ici, 4 personnes sont en détention. Il y aura d'autres arrestations, a déclaré le porte-parole de la police nationale, Bruno Chiosso. Il a été établi pour le moment que l'attaque est liée à des conflits locaux liés à la terre, précisant que de tels incidents ne sont pas rares dans cette région. L'attaque n'a pas été revendiquée pour le moment. Un homme a été décapité et 5 ont été tués par balle ou brûlés dans cette attaque survenue dans une région rurale à environ 420 km de la capitale Nairobi. Le comté de Lamu a déjà été le théâtre de plusieurs attaques et les autorités locales ont d'abord suspecté les islamistes Shabab, sans exclure d'autres pistes.
Un tribunal de Kampala a ordonné mardi la libération de Kakwenza Rukira Bashaija, un célèbre écrivain et pourfendeur du régime ougandais, arrêté après avoir critiqué le puissant fils du président Yoweri Museveni. L'écrivain a été brutalement arrêté la semaine dernière à son domicile dans la capitale ougandaise. Mardi, la juge Irene Nambatia, qui examinait une demande de libération faite par son avocat, a décidé que l'écrivain devait être inconditionnellement libéré, soulignant que tout officier de police doit se soumettre à cet ordre. En Afrique du Sud, l'incendie au Parlement qui a fait rage pendant 2 jours a été maîtrisé ce mardi selon les pompiers. Un suspect arrêté dimanche a été brièvement présenté devant un tribunal du Cap. Le point avec Abdou Rahman Dia.
Le visage fermé, Zandile Christmas Maffé, âgé de 49 ans, vêtu d'une chemise grise et d'un bermuda en jean, a été présenté à un juge du tribunal correctionnel. L'audience a été renvoyée au 11 janvier pour permettre aux enquêteurs de préciser certains éléments de l'enquête quand les lieux seront accessibles et évaluer le coût des dégâts notamment. En attendant, il restera en prison. Son avocat, maître Louvoyou Godla, a dit que son client niait toute implication et qu'il va plaider non coupable. L'accusation a dit qu'elle s'opposerait à toute libération conditionnelle. Le suspect est accusé d'être entré par effraction dans l'immense bâtisse située dans le centre du Cap, d'avoir mis le feu au bâtiment et d'avoir volé des ordinateurs portables, de la vaisselle et des documents. La grande salle au fauteuil en cuir où siègent les députés et où le président prononce tous les ans son discours à la nation a été complètement détruite. Les caméras de surveillance ont montré que Zandile Maffé était présent dans le bâtiment vers 2h du matin, mais la sécurité ne l'a vu que trop tard, d'après la ministre des Travaux publics, Patricia de Lille.
Toujours en Afrique du Sud, la première partie d'un rapport sur la corruption sous la présidence de Jacob Zuma, contenant plus de 3 ans de témoignages devant une commission ad hoc, a été remise aujourd'hui au président Cyril Ramaphosa à Pretoria. Le chef de l'État sud-africain devra ensuite décider et annoncer devant le Parlement d'ici fin juin quelles seront les suites à donner à ce rapport, car la Commission n'a qu'un rôle consultatif, mais ses conclusions pourront être transmises au parquet pour d'éventuelles poursuites. Il s'agit d'un moment décisif dans nos efforts pour mettre fin à la corruption d'État et restaurer l'intégrité, la crédibilité et la capacité de nos institutions, et plus important encore, de notre gouvernement, a déclaré le président sud-africain. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a été testé positif au COVID-19, a annoncé ce mardi l'agence officielle d'information. M. Ould Cheikh Al Ghazouani, 65 ans, est au pouvoir depuis août 2019. La Mauritanie, qui compte environ 4,5 millions d'habitants, a annoncé mardi 42 672 cas de COVID pour 872 morts depuis l'apparition de l'épidémie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis, confrontés à une inquiétante cinquième vague de COVID-19, alimentée par le variant Omicron, ont enregistré un record mondial de plus d'un million de cas rapportés ce lundi, selon les données de l'université Johns Hopkins. Le président Biden s'adressera à la nation sur Omicron. Le point avec Nani Talani.
En 24 heures, plus d'un million de cas ont été enregistrés. Près d'un Américain sur 100 a été testé positif au cours de la semaine dernière. Cette augmentation est due au variant Omicron, avec environ 59% des nouveaux cas, selon les centres de prévention et de lutte contre les maladies. Les décès et hospitalisations ont aussi récemment augmenté, mais dans une moindre mesure. Selon le docteur Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, la hausse du nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis suit une courbe presque verticale. Il dit espérer que la vague actuelle atteindra son pic après quelques semaines avant de s'inverser. Les compagnies aériennes et les entreprises limitent leurs opérations parce qu'elles manquent de travailleurs en bonne santé. Les membres du Congrès sont invités à travailler à distance. Des milliers d'écoles ont retardé le retour en classe après les vacances ou sont repassées à l'apprentissage à distance.
Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN tiendront vendredi une réunion d'urgence par visioconférence pour discuter des tensions autour de l'Ukraine et de la sécurité en Europe après la présentation par Moscou d'une série d'exigences à annoncer mardi l'Alliance. Les Occidentaux accusent Moscou de préparer une invasion de l'Ukraine, des dizaines de milliers d'hommes et quantités de matériel et d'armement étant déployés à la frontière. De hauts responsables des États-Unis et de l'OTAN doivent s'entretenir la semaine prochaine avec la Russie dans le cadre de pourparlers destinés à permettre une désescalade des tensions. Le Parlement italien se réunira le 24 janvier pour commencer à voter pour désigner un nouveau président pour succéder à Sergio Mattarella, a annoncé mardi le président de la Chambre basse du Parlement. Le Premier ministre actuel Mario Draghi a clairement fait savoir qu'il souhaitait devenir président, mais l'ancien patron de la Banque centrale européenne âgé de 74 ans n'est pas garanti d'obtenir le poste. D'autres personnalités politiques sont considérées comme de possibles candidats. Les avocats du prince britannique Andrew ont réclamé mardi à la justice américaine de classer sans suite une plainte au civil pour agression sexuelle qu'une Américaine a déposée à New York pour des faits remontant à 2001 lorsqu'elle était mineure. Les avocats estiment que ce règlement vieux de 12 ans et rendu public lundi par le tribunal fédéral de Manhattan protège aussi d'autres accusés potentiels dans l'entourage de l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein, dont son ami le prince Andrew. Depuis plus de 2 ans, le scandale sexuel Jeffrey Epstein, le multimillionnaire américain mort en prison en 2019, et accusé de crimes sexuels a plongé le prince dans la tourmente et l'a contraint à se retirer de la vue publique. De nombreux automobilistes ont été bloqués mardi matin sur une autoroute du nord-est des États-Unis. Certains ont passé près d'une vingtaine d'heures dans leur véhicule. La tempête hivernale a recouvert la région de neige et provoqué de nombreuses chutes d'arbres. Un tronçon de 86 km de l'autoroute I-95 menant vers la capitale américaine Washington a été fermé. Les autorités s'efforçant de rendre praticables des voies entravées par les troncs d'arbres, camions immobilisés, monceaux de neige et plaques de verglas. La tempête qui s'est abattue lundi sur la région a déposé une vingtaine de centimètres de neige, paralysant la capitale Washington. Près de 272 000 foyers sont privés d'électricité en Virginie, ainsi que des dizaines de milliers d'autres dans l'État voisin du Maryland. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. C'est à présent l'heure de la page d'info avec Yacouba Ouedraogo, spéciale Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun.
Bonsoir à tous. Le Sénégal compte toujours sur l'attaquant Ismaïla Sarr pour la Coupe d'Afrique des Nations, a déclaré un responsable de sa fédération. Les joueurs ont été regroupés en stage dans la banlieue de Dakar à Diamniadio, où ils ont été rejoints hier par les stars de Première Ligue, Sadio Mané et Edouard Mendy. Mais Ismaïla Sarr, objet de litige entre son club et sa fédération, manque toujours à l'appel ce mardi. Le site d'information sénégalais Immédiat rapporte que la fédération a finalement obtenu gain de cause et que Whitford a accepté de libérer le joueur attendu ce soir. La fédération sénégalaise de football a accusé dimanche dans un communiqué Whitford, 17e de Première Ligue, de bloquer l'attaquant de 23 ans et de chercher par tous les moyens à l'empêcher de jouer avec la sélection. Suite de notre série ce soir sur la présentation des différentes équipes prenant part à la CAN Cameroun 2021 qui débute ce dimanche 9 janvier, nous marquons un arrêt sur le groupe E basé à Douala. Cette poule est composée de deux favorites, entre autres la Côte d'Ivoire et l'Algérie, championnes en titre. Bagassi Koura.
Elle est championne d'Afrique en titre et remet son trophée en jeu avec pour ambition de le conserver. L'Algérie assume parfaitement son statut d'une des équipes prétendantes au sacre final au soir du 6 février à Yaoundé. Après avoir longtemps poursuivi ce trophée continental après leur sacre en 1990, les Fenecs ont réussi à accrocher une deuxième médaille à leur maillot en 2019 en Égypte. Depuis, le capitaine et emblématique ailier Riyad Mahrez et ses coéquipiers enchaînent les bonnes performances. Ils restent invaincus sur 33 matchs, un record sur le continent. Une invincibilité qu'ils ont récemment fait citer en remportant la Coupe arabe à Doha au Qatar le mois dernier, sans tous les cadres de leur équipe. Les Fenecs ont franchi haut les mains la phase éliminatoire de cette CAN, 4 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont fini avec la meilleure attaque des éliminatoires, 19 buts inscrits. Sur le papier, sortir de ce groupe E ne saurait être un challenge pour les Verts qui ne devraient en principe être sérieusement inquiétés que par la Côte d'Ivoire, l'autre poids lourd de cette poule. Comme les Fenecs, les éléphants comptent 2 sacres continentaux enlevés en 92 et en 2015. Du haut de ses 25 phases finales de CAN, la Côte d'Ivoire a toujours impressionné par la qualité de son effectif et cette année ne fait pas exception. Du défenseur de Manchester United, Eric Bailly, au colosse attaquant de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller. En passant par le latéral gauche, Serge Aurier, les Ivoiriens affichent un effectif à faire rêver leurs fans et faire pâlir leurs adversaires, mais les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Les Ivoiriens ont tout de même eu peu de peine à se qualifier pour cette CAN. En éliminatoire, ils ont fini premier de leur groupe grâce à 4 victoires, un match nul et une défaite. Ils savent, la principale difficulté pour eux dans cette poule reste l'Algérie. La Côte d'Ivoire voudra donc maximiser face à la Guinée équatoriale et la Sierra Leone.
Merci Bagassi. En plus de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie, le groupe E comporte 2 outsiders, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone que nous présente Nanit Talani.
Les Lone Stars joueront leur 3e phase finale de CAN cette année après leur participation lointaine en 1994 et 1996. Le sélectionneur britanno-sierra-léonais John Kester a donc à sa disposition des garçons qui joueront pour la première fois une phase finale de CAN. En phase éliminatoire, les Sierra-Léonais ont été les derniers à se qualifier pour cette CAN, arrachant difficilement leur ticket dans une rencontre délocalisée à Conakry en Guinée suite à un imbroglio lié à des tests COVID-19 face au Bénin. Pour se sortir d'affaire, les Sierra Leonais n'ont enregistré qu'une seule victoire, celle d'ailleurs décrochée devant les Béninois. Pour le reste, ils comptent 4 matchs nuls et une défaite. Un bilan comptable peu reluisant et qui, a priori, complique la mission, surtout quand on a dans son groupe des ténors comme la Côte d'Ivoire et l'Algérie. La Sierra Leone pourrait abattre ses cartes sur une éventuelle place de meilleur troisième et pour cela, il faudra se concentrer sur un autre maillon moins fort du groupe, la Guinée équatoriale. plus, la langue nationale a déjà pris part à deux CAN en 2012 dans une co-organisation avec le Gabon et en 2015 où elle a abrité le tournoi continental. Cette fois-ci, c'est la première fois que la Guinée équatoriale a pu arracher son ticket de qualification sur le terrain, s'adjugeant la deuxième place de son groupe lors des éliminatoires. Pour cela, elle a enregistré 3 victoires et défaites. Pour bousculer la hiérarchie dans ce groupe E, les Équato-Guinéens misent sur un mélange de joueurs locaux et de rares internationaux. Les poulains du coach Juan Micha Obiang ont toujours à l'esprit cet exploit réussi en 2015 lorsqu'ils ont atteint les demi-finales à domicile ou en 2012 quand ils ont été sortis en quart de finale.
Merci Nanit. Le groupe E entre en compétition le 11 janvier. C'est ici que se referme cette page spéciale du jour consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, les autorités de transition annoncent au seuil de l'année nouvelle le recrutement de 5000 jeunes diplômés en instance d'intégration à la fonction publique. L'opinion publique est sceptique quant à la tenue de cette promesse. Le reportage d'André Côte-Majinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Pour faire face à la question de l'emploi des jeunes et la lutte contre le chômage, la fonction publique ouvrira ses portes pour le recrutement de 5000 jeunes en 2022.
Le général d'armée 5 étoiles Mahamat Idriss, début chef de la junte militaire, s'adressa aux jeunes diplômés qui manifestent depuis des années pour revendiquer leur intégration à la fonction publique. Une promesse diversement appréciée par les membres du collectif de diplômés chômeurs.
Avant la promesse du président du conseil militaire de transition, le feu maréchal en a promis 20 000 à l'an 2020. Et il en a intégré 7 000 et il restait 13 000. On était tellement surpris du fait que le fils promet 5 000. Nous, on pensait qu'il allait s'inscrire dans la logique de la promesse de son père, en épuisant d'abord les 13 000 restants.
Adissou Dibam, l'un des coordonnateurs de la plateforme des diplômés en instance d'intégration à la fonction publique, prend acte.
Nous avons fait la prison, nous avons été humiliés, nous avons été torturés parce que nous revendiquons l'emploi. Nous prenons acte de cette promesse parce que il faut d'abord qu'il y ait la concrétisation. Qu'est-ce qui nous rassure que ce n'est pas une promesse populiste mensongère?
Nanga Thierry, coordinateur des professionnels de l'éducation, se bat depuis 13 ans pour son intégration à la fonction publique.
Moi, je ne prends pas acte de cette déclaration du coup. Vous prenez seulement les lauréats professionnels de l'éducation. Nous sommes restés 20 000 et quelques. Les instituteurs adjoints, ils sont au nombre de 14 000. Ceux qui ont, n'est-ce pas, nouveau licence DPS 1, ils sont au nombre de 6 000. Et les lauréats de grade CAPSUG au nombre de 155, sans compter les universitaires et ceux qui viennent de l'étranger. Donc au total, on n'a pas moins de 85 000 dossiers en instance d'intégration. Et si aujourd'hui on parle de 5 000, ça c'est des gouttes d'eau dans la mer.
Pour Emmanuel Nelzika, porte-parole de la plateforme des lauréats professionnels de l'éducation, bien que cette promesse n'est pas à la hauteur de leur attente, il y aura de la discrimination comme d'habitude.
C'est un nouveau gouvernement où chacun a au moins 2-3 par an à le faire intégrer avant de quitter. Et nous qui sommes dans la rue pendant des années, nous n'avons pas des parents bien placés pour défendre nos situations. Et vous verrez que c'est toujours les leurs là qui seront intégrés à notre détriment.
Pour Nanga Thierry, coordinateur des professionnels de l'éducation, la lutte ne fait que commencer.
Nous trouvons en cette déclaration une arme efficace pour continuer notre lutte parce que la parole d'un chef d'État est exécutoire. Parce qu'il a dit, j'ordonne le ministre en charge de la fonction publique de recruter dès à présent. Et donc, nous, on attend la première semaine du mois de janvier, deuxième semaine, troisième semaine, s'il n'y a rien, nous descendons dans la rue.
2022, selon le président du Conseil militaire de transition, sera aussi une année de sport au Tchad. Tous les championnats dans les différentes disciplines seront relancés pour offrir un cadre d'épanouissement et d'affermissement à la jeunesse. André Kordouma-Djinga, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La Côte d'Ivoire compte près d'un million et demi d'enfants hors du système formel d'éducation, dont 330 000 sont dans des structures islamiques, soit 22%. Le gouvernement ivoirien essaie d'intégrer ces écoles confessionnelles dans le système scolaire. Notre correspondante Aïcha Diarra nous en dit plus.
Non, là-bas, eu la chance d'aller, de faire beaucoup de Français, beaucoup d'Arabes. Mais nous, on a fait arabe seulement. Mais alhamdoulilah, aller là, il y a Français. Ben, si je travaille que je fais actuellement. Si j'avais eu la chance de faire les deux ensemble, ça allait très, très m'arranger. Parce que le travail que je fais, ça ne peut pas partir sans écrit, sans lire.
Pour pallier à cette inégalité de chance, l'État s'est engagé à offrir à tous les enfants du Côte d'Ivoire une éducation de qualité, équitable et inclusive, en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi à travers la stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation dans le système éducatif formel. Marie Toukoné est la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
La Côte d'Ivoire a réussi à relever le pari de la mobilisation autour d'une cause d'envergure nationale. Il nous reste à créer les conditions de la mise en œuvre diligente de l'intégration jusqu'en 2025.
L'école islamique Al-Ittihadiyya, dont l'existence remonte à plus de 30 ans, fait partie des premiers établissements à intégrer le système éducatif national depuis 2011. Kanté Abdoulkarim en est le directeur d'études.
De 2011 à aujourd'hui, il faut dire que l'effectif a considérablement augmenté. Les parents s'intéressent beaucoup aux écoles confessionnelles islamiques qu'aux écoles madrasa aujourd'hui, puisque l'enfant bénéficie de 10 enseignements. Non seulement il apprend la religion, l'arabe, mais à côté de cela, il apprend aussi à lire le français. Et ensuite, il participe au concours de l'État. Bon, nous avons 3 jours pour le français et 2 jours pour l'arabe.
Selon le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Marc Vincent, depuis septembre 2011, plus de 100 000 enfants ont commencé une année scolaire d'un nouveau genre qui allie le programme officiel et l'éducation religieuse.
UNICEF ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les bases sont jetées et il nous faut maintenir l'engagement tout en accélérant la cadence pour l'intégration des enfants de près de 3 000 structures islamiques déjà identifiées.
Parmi ces structures répertoriées, l'établissement islamique Ousmane Boun Affan au quartier Olienou de Boaké où Traoré Daoud enseigne uniquement la langue arabe.
Bon, vraiment, on a fait des réunions avec le guide. Vraiment, on nous a expliqué comment il faut pour être intégré. Voilà. Bon, les classes même doivent être bien construites, plafonnées, tout ça, ils ont parlé de ça. Bon, dans chez nous aussi, vous-même, vous voyez, voilà, on est encore loin d'être intégré.
Héritage colonial, les écoles catholiques dès 1960 ont été intégrées par le président Félix Houphouët-Boigny au système d'enseignement public. Et il y a encore du chemin pour parfaire l'intégration des écoles islamiques dans le système officiel de l'éducation national. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
La 5e vague de la pandémie de coronavirus continue de se propager dans le monde, infectant aussi bien les non-vaccinés que les vaccinés. Le variant le plus récent, Omicron, a déjà entraîné des milliers d'annulations de vols aux États-Unis depuis le début de l'année. Le président américain Joe Biden a promis la mise à disponibilité d'un demi-milliard de tests rapides alors que les écoliers américains retournent en classe. Arash Arabasadi s'est penché sur le sujet, Deli Diko raconte.
Plus de 9200 vols intérieurs et internationaux ont été retardés ou annulés le jour du Nouvel An, ici aux États-Unis, en raison du mauvais temps et de l'augmentation des cas liés au variant Omicron, selon le site flightaware.com. Dimanche, 2200 autres vols ont subi le même sort. L'aéroport de Chicago était bondé. Écoutons Sylvia Robinson, une voyageuse venue de Houston, au Texas.
L'année dernière, j'ai voyagé et il n'y avait personne ici. C'était un peu étrange. Du coup, j'aime bien voir des gens, mais là, il y en a trop.
Alors que le variant Omicron semble moins susceptible de provoquer une maladie grave, le principal conseiller médical du président Joe Biden, le docteur Anthony Fauci, prévient que l'augmentation des infections menace l'ensemble du système de santé.
Même si vous avez un pourcentage de gravité inférieur de la maladie, lorsque vous avez plusieurs personnes infectées, le résultat est que vous allez avoir beaucoup de cas nécessitant une hospitalisation. C'est la raison pour laquelle nous craignons de mettre à rude épreuve le système hospitalier.
Alors que les écoliers américains retournent en classe cette semaine, le message du docteur Fauci reste clair.
I plead with parents to please seriously consider
Je prie les parents d'envisager sérieusement de vacciner leurs enfants, de leur faire porter des masques en milieu scolaire, de faire des tests pour contenir la propagation du virus lorsque les enfants sont infectés. Je pense qu'ensemble, toutes ces mesures permettront de ramener les enfants à l'école.
Le nouveau maire de New York, Eric Adams, qui a prêté serment samedi, a assuré que la plus grande ville du pays est prête pour une reprise des classes.
Nous allons créer un environnement sûr avec des tests. Nous allons identifier les enfants qui sont exposés. Nous allons les retirer de cet environnement. Les chiffres montrent que le simple fait qu'un enfant soit exposé dans une salle de classe ne signifie pas que toute la classe est exposée.
Adams prend ses fonctions alors que la ville de New York fait face à un nombre record de cas liés au variant Omicron.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Cette semaine, les innovateurs du monde entier se sont donné rendez-vous à Las Vegas, au salon de l'électronique qui ouvre ses portes demain mercredi 5 janvier pour se refermer le 7. Mais déjà, les médias ont pu découvrir en avant-première les innovations technologiques qui seront présentées cette année au cours du Anvil Las Vegas, l'événement médiatique officiel du salon. Arzuma Compaoré, notre envoyé spécial à Las Vegas, y a fait un tour et nous présente ici une invention française de la société DanTech, Bob le mini lave-vaisselle révolutionnaire.
Et c'est parti pour l'événement médiatique officiel du salon de l'électronique de Las Vegas, CES Unveiled. Plus de 130 exposants choisis sur mesure présentent des technologies révolutionnaires en exclusivité pour les médias. Et c'est également l'occasion pour les lauréats des CES Innovation Awards de présenter leurs produits. Alors si vous êtes prêts pour un petit tour, c'est parti. Là nous avons derrière nous une machine à laver portable et c'est une invention de Dan Technology. Nous sommes avec son CEO qui s'appelle Damien Pi. Bonjour Damien.
Bonjour.
Alors en quelques mots, dites-nous, cette technologie que nous avons ici, ça sert à quoi?
Alors c'est un petit lave-vaisselle qui se pose à côté de l'évier, sur l'égouttoir, qui ne nécessite pas d'arrivée d'eau, puisqu'on le pose, on le relie au réseau électrique, on le remplit par l'avant, comme une machine à café, avec un galon d'eau, et ça se vidange directement dans l'évier. On lave en 20 minutes la vaisselle de deux personnes, c'est-à-dire 6 assiettes, 4 verres, 2 tasses de bol et les couverts. Donc voilà, pour une ou deux personnes, c'est vraiment la vaisselle qu'on va utiliser sur une journée. Et ça se vidange directement dans l'évier, propre et sec, en 20 minutes.
Pour Dan Technology, un événement comme le CES, ça représente quoi?
Ben nous, le CES, c'est avant tout une opportunité de nous faire connaître, puisque nous, on est présents en Europe aujourd'hui, où on a vendu sur l'année dernière 35 000 bobs. Donc c'est un beau succès pour une première année de commercialisation. On est également présent à Taïwan et on sera présent cette année au Japon, en Corée, Hong Kong, à Singapour et en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Et c'est pour ça qu'on est venu là aujourd'hui, ben pour nous faire connaître sur le marché américain, puisqu'aujourd'hui, le bob est en précommande sur notre site à 299 $ au lieu de 399 $ qui est le prix de vente un retail conseillé.
Est-ce que vous êtes surpris de voir un peu comment les gens utilisent votre invention finalement?
Oui, bah alors en fait, nous, il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'achètent pour laver les tasses au bureau, pour éviter d'utiliser des gobelets jetables. Il y a beaucoup de gens qui font des camping-cars, des vannes aménagées et qui du coup configurent leur espace. Donc, par exemple, ils vont mettre les panneaux solaires, le système des batteries en onduleur. Ils intègrent le bob pour ne pas avoir à faire la vaisselle. On a beaucoup de personnes âgées qui achètent le bob. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, on est assez âgé, on est tout seul, on n'a plus les enfants avec soi et on commence à avoir un peu d'arthrose. Donc faire la vaisselle à la main, c'est difficile. Et bob, l'intérêt, c'est que c'est très facile à utiliser. On appuie sur le bouton et ça lave et il n'y a pas besoin de se baisser. Donc là, le prix d'entrée, c'est 399 $ en magasin et en ligne. Et aujourd'hui, il est en précommande à 299 $ avec une réduction de 100 $ pour les 6 mois d'attente liés à la précommande.
Merci beaucoup Damien Pi, et puis on vous souhaite une bonne continuation et merci. Beaucoup de courage.
Merci beaucoup et surtout jetez l'éponge, adoptez Bob.
À très bientôt, vous avez compris, jetez l'éponge.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.